Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence pour ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, alors que nous sortons tout juste d'une période marquée par une profusion d'événements en tout genre, tels que les festivals Piano Jacobin, Toulouse les Orgues et Passion Baroque, les 8 représentations de Norma au Théâtre du Capitole et de très nombreux concerts quasi pluri-quotidiens à Toulouse et dans la région depuis fin septembre. Une actualité foisonnante comme elle l'est souvent, mais il faut dire qu'elle l'est encore plus à certains moments de l'année. Mélomanie a pour but de vous en rendre compte le mieux possible, raison pour laquelle j'ai invité aujourd'hui à ce numéro un des journalistes chroniqueurs musicaux les plus assidus de la place de Toulouse et de ses environs, celui à qui presque aucun concert n'échappe, j'ai nommé Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. La première partie de cette émission est, comme vous le savez, consacrée au concert de la semaine précédente et vous aurez compris qu'il y en a eu beaucoup. C'est donc sans plus attendre que Serge et moi vous convions à notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Le premier concert sur lequel je vous propose de revenir est celui que l'Orchestre des Passions de Montauban a donné vendredi dernier au joli théâtre Olympe de Gouges de la préfecture du Tarn-et-Garonne. C'était un des temps forts du festival Passion Baroque, fondé et dirigé, je le rappelle, par Jean-Marc Andrieux, le directeur artistique des Passions de Montauban. Jean-Marc Andrieux était bien sûr à la baguette pour ce concert, dont il a présenté chaque œuvre jouée, exercice qu'il adore et dans lequel il excelle. Le programme était intitulé « Concerto pour rêve brisé » et il offrait au moins deux grands intérêts. D'abord, il rassemblait un plateau d'excellents musiciens de la scène baroque, dont les membres réguliers des Passions de Montauban bien sûr, la violoncelliste Pauline Lacambra, la claveciniste Yasuko Uyama Bouvard et la violoniste Stéphanie Paulet, cette dernière étant entre autres le premier violon de l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet. Je reviendrai tout à l'heure sur la grande qualité musicale de l'ensemble que Jean-Marc Andrieux a formé pour cette soirée. L'autre grand intérêt de ce concert est lié aux œuvres qui ont été interprétées. Les rêves brisés auxquels il est fait allusion dans le programme sont en fait ceux du duc d'Aiguillon, ancien secrétaire d'État de Louis XV tombé en disgrâce à l'avènement de Louis XVI, ce qui l'obligea à quitter Paris et à vivre en exil sur ses terres du Lot-et-Garonne. Il y revint en amenant avec lui le cénacle de comédiens, danseurs et musiciens qu'il avait fondé dans la capitale. Outre cet aréopage d'artistes, le duc d'Aiguillon avait ramené dans ses bagages près de 800 partitions, un fonds d'une incroyable richesse miraculeusement conservé après la Révolution française, et d'ailleurs consultable encore aujourd'hui aux archives départementales à Agen. Jean-Marc Andrieux, que nous connaissons bien entre autres pour cela, est un passionné de musique ancienne et un chercheur dans l'âme. Il a donc étudié ses partitions et il en a retenu quelques-unes à sortir de l'oubli et à qui donner une seconde vie. Parmi celles-ci, deux ont été interprétées en première partie du concert. Un concerto à cinque con violino principale et en ut majeur de Giuseppe Tartini et un autre concerto à cinq instruments avec violon principal en mi bémol majeur d'André Joseph Exaudet. Et là, je vais me tourner vers Serge Chauzy. Est-ce que les noms de Tartini et d'Exaudet vous disent quelque chose? Est-ce que vous connaissez certaines de leurs œuvres?
Alors, si les noms me disent quelque chose, effectivement, Tartini quand même est relativement connu. Exaudet, un peu moins, mais c'est des noms quand même que l'on connaît, que l'on voit passer trop rarement dans les programmes des concerts, évidemment. Et merci à Jean-Marc Andrieux d'avoir mis ces deux compositeurs au programme de son concert. Oh, ce sont de grands compositeurs du 18e, hein. Effectivement, alors Exaudet, compositeur français, son nom l'indique, hein. Donc, c'est très bien d'avoir donné un concerto. Là, ici, c'est concerto, en l'occurrence, d'Exaudet, d'avoir donné cette œuvre dans un programme tout à fait varié, hein, puisqu'il y avait quand même aussi du Vivaldi, du Valentini, et puis du Jean-Sébastien Bach. Là, on est en terrain connu.
Oui, je vais y venir donc au détail de ce programme. Juste concernant Exaudet, il semblerait, moi j'avoue que je ne connaissais pas, qu'il a composé un menuet. Oui. Très connu des violoncellistes, à tel point que c'est une œuvre qu'on étudie forcément lorsqu'on passe dans les conservatoires et qu'on est violoncelliste.
Oui, effectivement, c'est peut-être cette pièce pour violoncelle qui a fait la gloire, si l'on peut dire, de André-Joseph Exaudet, effectivement.
Alors c'est marrant parce que c'est une œuvre pour violoncelle alors qu'il était violoniste, lui.
Ah oui, en effet.
Voilà. Bon, violoniste et donc grand compositeur de cette époque. Alors, Tartini, lui, ça a commencé par le concerto de Tartini, ce concert. Et lui, il est coincé entre la fin du baroque et le début de la période classique. Et j'ai trouvé que son concerto était vraiment encore très, très influencé par la musique de son compatriote Vivaldi. Et c'est d'ailleurs une pièce de Vivaldi qu'il a suivie au programme du concert, la Sinfonia pour cordes al Santo Sepolcro en si mineur, une pièce dédiée au Saint-Sépulcre, donc certainement pas la plus jouée de Vivaldi, hein. C'est pas la plus connue, enfin je crois pas, vous la connaissez.
Non, effectivement.
Voilà, et c'est une sorte de longue déploration, on voit des images de Pietà lorsqu'on l'écoute. Et donc après a été joué le concerto d'Exaudé, lui aussi très imprégné de la musique italienne de l'époque. On sent que Vivaldi, sa musique et son aura, son influence rayonnaient sur toute l'Europe baroque. Il y a trois mouvements dans ce concerto, un andante, un largo et un allegro, ma non presto. De belles factures et très agréables à entendre. Enfin, en ce qui me concerne, c'était vraiment une belle découverte, d'autant plus que cette pièce a donné lieu à de superbes ornementations improvisées par Stéphanie Paulet. C'est la latitude qu'avait laissé le compositeur au soliste principal. Après l'entracte, la seconde partie comportait deux œuvres, un concerto grosso pour quatre violons en la mineur, opus 7, numéro 11 de Giuseppe Valentini, encore un contemporain de Vivaldi. Alors c'est une pièce qui présente la particularité de comporter huit mouvements tout de même, ce qui n'est pas commun. Et l'intitulé concerto grosso, pour ceux qui ne sauraient pas, indique le fait que plusieurs musiciens y jouent successivement le rôle de soliste. Enfin, le programme s'est achevé avec une œuvre beaucoup plus célèbre, le fameux concerto pour violon en la mineur BWV 1041. D'un certain Jean-Sébastien Bach. Et là, Stéphanie Paulet a encore pu donner toute la mesure de son talent avec un violon qui a un son à la fois intense et chaleureux. C'est vraiment une musicienne remarquable et j'associe à ses compliments tous ceux qui l'ont accompagnée ce soir-là. On sent que Jean-Marc Ambrieux avait très bien préparé son affaire et qu'un gros travail préalable avait été réalisé avant le concert. Et bien, pour saluer la prestation de Stéphanie Paulet et vous donner l'occasion de l'entendre ou de la réentendre pour ceux qui la connaissent déjà, je propose qu'on l'écoute justement dans le concerto pour violon BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit du premier mouvement. Le premier mouvement du concerto pour violon en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Stéphanie Paulet. J'ai appris après le concert qu'elle s'était, semble-t-il, installée récemment à Toulouse, ce qui devrait nous valoir le plaisir d'entendre souvent cette belle violoniste dans notre région à l'avenir. Et je pense que personne ne s'en plaindra. C'est justement à Toulouse que nous poursuivons notre retour sur les concerts de la semaine dernière, avec la fin du festival Toulouse des Orgues, le concert de clôture donné par l'organiste et compositeur Thierry Esquèche avec le quatuor de saxophone Ellipsos a eu lieu dimanche à la cathédrale Saint-Étienne, mais la veille, le samedi, il y a eu plusieurs propositions dans la journée, notamment à 17h au Temple du Salin avec le Requiem de Forêt accompagné à l'orgue, et le soir à la Basilique Saint-Sernin pour la Nuit de l'Orgue, un des grands moments du festival depuis quelques années. Serge Ozy, vous avez assisté à ces deux événements. On va commencer dans l'ordre et donc par le Requiem de Forêt au Salin. Rappelez-nous qui était le chœur et l'organiste qui l'ont interprété samedi après-midi.
Oui, alors c'était une bonne idée de donner cette version avec orgue du Requiem de Forêt. Hein. Elle existe depuis la composition. Hein.
Bah, Forêt est organiste lui-même.
Bien entendu. Voilà. Donc, c'est une très belle version. Et là, elle était chantée par le chœur et les solistes de l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie. Ce chœur est dirigé par Noël Génie. Et c'est un excellent chœur, vraiment, hein, qui a tout au long de l'œuvre a soutenu l'intérêt avec intensité, avec de belles voix, un bel équilibre entre les différents registres du chœur, entre les registres aigus, les registres graves, vraiment très très bien. Et l'organiste, c'est un tout jeune organiste britannique qui s'appelle Richard Gowers, et vraiment qui a magnifiquement bien accompagné ce Requiem de Forêt, qui était précédé par le cantique de Jean Racine du même Forêt, cantique très court, une dizaine de minutes, très beau, très mélodieux, comme toujours chez Forêt, hein. Et également précédé encore par une pièce de Louis Vierne, alors le grand compositeur de l'orgue romantique orchestral, hein, et avec une pièce qui s'appelle Clair de Lune, et qui a donné l'occasion d'apprécier la qualité de cet orgue. C'est vraiment un orgue qui est trop peu connu à Toulouse, l'orgue du Temple du Salin, qui est très très beau, avec des sonorités très transparentes, très belles, et dont l'organiste a tiré les meilleures registrations possibles. Donc c'était très bien. Alors pour ce qui concerne le Requiem lui-même, donc, eh bien, on retrouve l'œuvre qui est donnée le plus souvent avec orchestre, hein. Évidemment, l'orgue n'a pas les possibilités de couleurs qu'a l'orchestre, mais il en trouve quand même, hein, quand il est tenu par un bon artiste, comme c'était le cas ici avec Richard Gowers. Donc très bien, il y avait deux solistes qui étaient des membres du chœur, un baryton et une soprano, qui ont fait leur office, hein, donc, mais qui provenaient du chœur, ça n'était pas des grandes vedettes, oui, du chant. Mais c'est pas plus mal pour le Pie Jesu notamment, pour la soprano. C'est souvent chanté d'ailleurs par un garçon, soprano, hein, cette œuvre. Et puis les deux passages chantés par le baryton, là c'est un peu autre chose. Là le baryton avait une voix assez puissante, presque trop pour le Temple du Salem, mais on va pas lui reprocher. Donc c'était une belle exécution, avec beaucoup de monde, c'était vraiment plein.
Hein, c'est
donc
la question que j'allais vous poser.
Absolument.
Encore beaucoup de public pour,
ah, oui, oui, non, mais
pour ce concert.
Ce festival a été un succès auprès du public, hein, faut le dire. Hein.
Ah oui, d'ailleurs je suis assez impatient d'avoir les résultats, le total de la fréquentation de cette 24e édition de Toulouse, ah, oui, parce que je pense que ce sera une édition qui fera date. Très,
oui,
certainement.
Oui. Ah oui, oui, oui.
Pour, absolument, la variété du programme, la qualité, mais ça, bon, ça, c'est pas nouveau. Mais oui, en revanche, je crois qu'en termes de fréquentation, ils vont certainement battre un record. Là.
Ah oui, oui, oui. Là, c'est l'impression que l'on a. Hein. À tous les concerts auxquels j'ai assisté, c'était absolument plein.
Chaque fois, c'était plein. Et puis, c'était bien, justement, de faire entendre cet orgue du Salin qu'on entend rarement. L'acoustique, oui, en plus,
excellente,
est très intéressante.
Très, très bonne. Très, très bonne. Le chœur était sous l'orgue, évidemment, au niveau de l'assistance. Hein. Et c'était très impressionnant, la qualité acoustique de cette salle, donc, en quelque sorte, qui mérite d'être visitée plus souvent.
Et puis, donc, le soir, la traditionnelle et très attendue Nuit de l'Orgue à Saint-Sernin à partir de 20h30 en non-stop. Vous faisiez partie des noctambules,
oui,
qui ont assisté, Serge Ozy.
C'est le cas.
Comment était-elle organisée cette soirée, cette Nuit de l'Orgue? Je crois, ouais, que ça s'est déroulé en trois temps.
Voilà, il y a trois étapes. Trois étapes bien distinctes avec un petit arrêt d'une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes entre les différentes étapes. Très différentes les unes des autres, hein, effectivement. Hein. Donc c'était vraiment là aussi. La basilique Saint-Sernin était archi-comble et paradoxalement, pour une quand même une soirée qui dure à peu près 3 heures, hein, de musique, hein, et bien il y avait énormément de tout jeunes, d'enfants, dont la plupart sont restés jusqu'à la fin. Hein, donc il y en a certains qui ont abandonné en cours de route, mais ça se comprend bien. Hein, 3 heures de musique pour un jeune enfant de 8 ou 10
ça
ans.
Ça se termine presque à minuit. Hein, donc,
ah oui, oui, oui. Voilà, oui, oui, oui. Donc c'était vraiment très intéressant.
Alors il y a quand même un fil conducteur, c'est que c'était des duos.
C'était des duos, et des duos avec la parité. En quelque sorte, global. Hein. Donc le premier duo, c'était à la fois le directeur de ce festival, Yves Rechsteiner, et le percussionniste Henri-Charles Cagé, avec lequel il a enregistré d'ailleurs un disque, hein, et avec beaucoup d'imagination comme toujours. Donc c'était la première partie qui se résumait à une seule œuvre, qui était une espèce de très longue variation pour orgue et percussion autour de l'œuvre Tubular Bells de Mike Oldfield. C'est une partition des années 70 qui était reprise et variée et modulée par l'organiste et le percussionniste. Donc c'était vraiment une belle idée. Et ça maintenait l'attention pendant la longue durée quand même de cette pièce unique, donc, qui était transcrite par les interprètes eux-mêmes à partir de l'œuvre originale. Vous savez, je me souviens encore de la pochette du disque avec une espèce de tube en triangle.
C'est Tubular Bells.
Tubular Bells, c'est le titre de l'album.
Et je crois que ça a à voir avec la musique du film L'Exorciste.
C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Hein. Oui. Donc, vraiment une belle découverte pour tous ceux qui étaient présents ce soir-là.
Ben, orgue et percussion, on ne pas ça tous les jours.
C'est très rare. Mais Yves Reichsteiner fait ça tous les ans. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ils se produisent beaucoup ensemble avec Henri-Charles Cazé.
Oui, absolument.
Très souvent.
Absolument.
Alors, suivant.
La deuxième partie était assurée par deux organistes russes, ce qui est assez rare. L'orgue n'a pas une tradition profonde en Russie, tout simplement parce que l'église orthodoxe ne pratique pas ce genre. Elle pratique les chœurs, mais la musique d'orgue n'est pas très courante en Russie. Et là, c'était deux jeunes musiciennes qui s'appellent Olga Sukova et Ekaterina Kourmichova qui ont joué trois pièces, elles. La première était une pièce du compositeur libanais d'aujourd'hui, Naji Hakim, qui s'appelle Rhapsody. Une pièce assez étrange, écrite pour orgue, d'origine. Pièce très forte, avec une intensité un peu démoniaque du son de l'orgue. Ensuite, il y avait deux transcriptions. La première était celle d'une pièce qu'on connaît bien chez nous, qui est « Ma mère loi » de Ravel. Et c'était quelques extraits. Il y avait « La pavane de la belle au bois dormant »,« L'aidronette impératrice des pagodes » et « Le jardin féerique ». Dans une assez habile transcription pour orgue, donc, je suppose des deux interprètes. Ça n'était pas indiqué, mais en tout cas, ça se soutenait tout à fait, ça soutenait l'intérêt. Donc, c'était très intéressant. Le troisième morceau était un extrait du ballet Petrouchka d'Igor Stravinsky, dans également une version pour orgue avec ces extraits étant fêtes populaires de la Semaine Grasse, puis chez le mort, puis la même fête le soir, et puis ça s'achevait sur la mort de Petrouchka. Là, évidemment, il y avait un petit déficit dans les couleurs de l'orchestre. On ne retrouvait pas, malgré soi, on a dans l'oreille l'œuvre originale pour orchestre, et donc c'est très difficile. Là, ça sonne comme une autre œuvre, effectivement.
Mais avec l'orchestration de Stravinsky.
Ah bah oui, c'est
comme ça, moi j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner à l'orgue, même à l'orgue à quatre mains.
Oui, quatre mains, quatre pieds, là, en l'occurrence. En tout cas, c'est une performance technique de la part des deux organistes. Parce que, comme d'habitude, pour tous les concerts qui ont lieu dans la basilique, il y a un grand écran qui montre ce qui se passe à la tribune. Donc on voit les interprètes en train de jouer, aussi bien le percussionniste Yves Reichsteiner que les deux organistes russes. Et donc, on s'aperçoit que c'est un véritable exercice de gymnastique. Heureusement qu'il y a trois claviers à cet orgue, mais les mains se croisent de manière très problématique
par moment. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des gens qui soient habitués à jouer ensemble.
Ah oui, tout à fait.
Ça ne peut pas s'improviser, je pense.
Ah oui. Et puis enfin, troisième volet de cette nuit.
Et troisième duo.
Troisième duo, là c'est, alors vous voyez, le premier duo c'était deux hommes, le deuxième duo c'était deux femmes, et là c'est un duo homme-femme. Et donc il y avait Eva Vilgas qui est clarinettiste, excellente clarinettiste, vraiment elle a charmé tout le public, et Brice Montagnou qui est organiste donc, et les deux vraiment ont fait des choses tout à fait magnifiques. Pour moi ça a été le moment le plus excitant.
Pour vous ce sont les deux, enfin la clarinette a été l'instrument qui fonctionne le mieux avec l'orgue.
Ah là parfaitement oui, d'autant plus c'était des œuvres originales.
Ah oui, écrites pour orgue et clarinette vraiment.
Ou pour orgue et clarinette, ou pour clarinette et piano, et donc, on transcrit l'œuvre, l'accompagnement entre guillemets de piano à l'orgue, donc c'était très bien. Il y avait d'abord donc deux pièces de Charles-Marie Vidor, avec des variations de la cinquième symphonie, sa fameuse cinquième symphonie pour orgue, uniquement jouée à l'orgue cette fois, et ensuite une introduction et rondo pour clarinette et orgue, donc originale de Vidor, et c'était vraiment magnifique. La combinaison entre la clarinette et l'orgue était parfaite. Ensuite, il y avait également, uniquement à l'orgue, la sixième sonate de Félix Mendelssohn. Mendelssohn a écrit pas mal de sonates. C'était la dernière, celle-là, donc. Très belle, magnifiquement jouée par Brice Montagnou, vraiment un organiste à suivre, excellent. Et la pièce suivante était signée de Claude Debussy, et c'était la première rhapsodie pour clarinette et orchestre, mais Ici, l'accompagnement était joué à l'orgue. Et vraiment, moi, ce que j'ai le plus admiré... Alors, évidemment, la clarinettiste a magnifiquement joué cette pièce. Mais ce que j'ai le plus admiré, c'est la délicatesse de l'accompagnement à l'orgue. C'était magnifique. Il s'était forcé à soutenir sans submerger le son risque, de la clarinette. Ouais. C'était très, très beau. Et puis, il y a eu également une œuvre originale pour orgue. Alors, c'était peut-être l'apothéose de toute la soirée. Un extrait de La Nativité d'Olivier Messiaen. Bah, le grand maître de l'orgue au XXe siècle, on peut dire. Hein. C'était l'extrait qui s'appelle « Dieu parmi nous » et c'était vraiment d'une grande beauté. Bravo vraiment à cet organiste. Hein. Et enfin, une œuvre alors, d'un compositeur que je ne connaissais pas d'aujourd'hui, qui s'appelle Robert Helmschrott, et c'était des extraits d'une sonata da Chiesa pour clarinette et orgue, écrite originalement pour clarinette et orgue, avec deux extraits, églogue et rondellus. Là aussi, très bien, un mariage entre les deux qui était tout à fait magnifique. Donc vraiment, très belle nuit de l'orgue et très variée.
Quelle soirée, quelle soirée, vraiment, oui, comme vous dites.
Bien remplie, oui.
Eh bien, nous allons illustrer tout ce que vous venez de dire, Serge, en écoutant un duo formé par un organiste et un autre instrumentiste, et pour rendre hommage à Yves Rechsteiner, qui fait, j'insiste là-dessus, un travail admirable à la direction de Toulouse des Orgues avec son équipe. La magnifique réussite du Festival 2019 en témoigne. C'est lui que nous allons entendre maintenant avec son complice, le percussionniste Henri-Charles Caget. Les voici dans une adaptation des Sauvages, le fameux rondeau des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Les Sauvages, je ne parle pas d'Yves Rechsteiner et Henri-Charles Caget, mais de leur adaptation pour orgue et percussion du célèbre rondeau des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, que vous venez d'entendre à l'instant interprété par ce duo. Le festival Toulouse des Orgues s'est donc terminé dimanche, et le lendemain, à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'était le premier concert de la 20e saison des Clés de Saint-Pierre, qui propose, pour célébrer l'événement, nous en avons parlé la semaine dernière, 5 rendez-vous associant la musique à une autre discipline artistique. Pour ce concert inaugural, c'est la littérature qui était convoquée lundi aux côtés des musiciens des Clés. On y était tous les deux, Serge, et on va rappeler pour commencer ce qu'était le concept de cette soirée et ses protagonistes. Alors, quels étaient les musiciens et la récitante convoqués lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines?
Eh bien, il y avait donc parmi les musiciens convoqués, évidemment, la majorité appartiennent, toutes les cordes appartiennent à l'Orchestre National du Capitole. En l'occurrence, il y avait son super soliste, Christy Jessie, excellent violoniste, on va y revenir.
Oui, parce qu'il faut qu'on parle de Christy Jessie, qui est vraiment un musicien un peu hors norme quand même.
Ah oui, tout à fait. Et puis deux autres violonistes, qui sont Laura Jaillet et Alexandre Dalbigo. Ensuite, il y avait l'altiste Laura Esminger et Aurore Dassès, au violoncelle, donc, qui accueillait également le pianiste Philippe Montferrand, mais qui est un peu le compagnon fidèle des Clés de Saint-Pierre depuis des années.
Quand il faut un piano aux Clés de Saint-Pierre, c'est presque à tous les coups Philippe Montferrand qu'on va chercher.
Et il est excellent.
Et c'est très bien.
Ah oui, c'est très bien. Continuons comme ça. Et la partie littéraire, donc, était donc une littérature épistolaire, puisqu'elle lisait essentiellement des lettres. Elle était tenue par la comédienne Dominique Bru, et vraiment dont la voix, la sensibilité sont tout à fait celles que l'on attend pour ce genre de lecture. C'était des témoignages intimes des compositeurs inscrits au programme. D'une part, Schumann, c'était la première partie avec le quatuor à cordes numéro 3. Et donc, cette exécution a été accompagnée de lettres de Robert Schumann à Clara, son épouse bien-aimée.
Et l'inverse aussi.
Et l'inverse de Clara à Robert. Et ensuite, après l'entracte, c'était donc le fameux concert pour piano, violon et quatuor à cordes de Chausson avec des lettres de Chausson, donc, et ça a permis de...
Je crois qu'il y avait aussi des extraits de son journal.
Oui, exactement, extraits de son journal, et donc, c'était... Bon, on a appris des tas de choses, avec
ça. C'était très intéressant.
Tout à fait.
C'était fouillé, c'était assez adapté au contexte de cette soirée et aux œuvres qui étaient jouées, même si les écrits n'étaient pas forcément contemporains de la composition
des œuvres
en question. Et effectivement, Dominique Bru, qui est une excellente comédienne, je l'ai dit la semaine dernière, je vais le redire, est aussi une remarquable lectrice.
Ah oui.
Bon, d'abord, elle a une très jolie voix, et puis bon, elle a une présence aussi, une expressivité qui était tout à fait adaptée pour l'exercice qu'on lui avait proposé. L'interprétation des œuvres musicales cette fois-ci
magnifique,
mais vraiment parfaite, de toute beauté, de premier ordre.
Une fois de plus, on peut admirer la cohésion des musiciens qui viennent jouer de la musique de chambre.
Mais d'autant plus, voilà, c'est que ce sont des musiciens d'orchestre. Aucun ne joue régulièrement dans des formations de musique de chambre. Alors quand ils se mettent ensemble, ils font des choses dignes de grands chambristes.
Tout à fait excellente. Mais je crois que la cohésion qui existe entre eux, elle provient justement de leur pratique de l'orchestre. C'est très important. Donc leur pratique de l'orchestre bénéficie à la musique de chambre. Et la musique de chambre, je suis sûr que ça bénéficie à leur action au sein de l'orchestre.
C'est d'ailleurs ce que dit Tougan Sokiev, lorsqu'il parle des Clés de Saint-Pierre. Donc, lui, il est tout à fait pour que ces musiciens se produisent dans le cadre de cette saison de musique de chambre.
Exactement. Alors bon, il faut quand même dire qu'on a été un peu déconcerté, d'une part par la longueur de l'introduction. Tout est intéressant de ce qu'a dit Dominique Bru, évidemment, mais elle le dit pendant que les musiciens sont sur scène, immobiles, et attendent le moment de jouer. Voilà, alors ça, c'est un peu dommage.
Oui, ça, je pense que c'était une erreur, parce que, évidemment, c'est le concept qui avait été souhaité pour ce concert par les musiciens eux-mêmes. Donc tout ce qui s'est passé, évidemment, c'est eux qui l'ont décidé. Oui, sauf que je pense que ce qu'ils n'avaient pas mesuré, c'est que le public, lui, les voit.
Oui,
il les voit ne rien faire pendant une lecture qui était assez longue, intéressante, mais assez longue. Ce qui fait qu'on a aussi l'attention qui est perturbée. On regarde la lectrice, on regarde les musiciens, on les voit là, qui font un peu comme des gens dans une salle d'attente qui attendent leur tour. Ce qui, à mon avis, n'était pas forcément une bonne idée.
Oui.
Ils n'ont pas reproduit le même schéma pour l'œuvre de Chausson.
Lectures
des lettres du journal.
Oui,
de
mais ce que j'ai trouvé peut-être plus gênant, c'était le retour des récits entre les mouvements.
Alors ça, pendant Schumann.
Du quatuor de Schumann.
Oui, ça.
Ça, c'était vraiment dommage parce que ça apportait des espèces de rupture. Il y avait un peu ce dispositif. Détruisait un peu l'unité de l'œuvre. C'est-à-dire, l'œuvre, elle est faite pour être jouée dans la continuité, évidemment. Chaque mouvement apporte quelque chose par rapport à ce qui précède et quelque chose par rapport à ce qui suit. Et donc, si on l'interrompt par des lectures, si intéressantes soient-elles, et elles le sont, elles l'étaient, c'est un peu dommage pour l'unité de l'œuvre.
Je pense que certaines personnes ont été déconcertées. Puristes ont vu ça comme un sacrilège. Encore une fois, Robert Schumann n'était pas là pour donner son avis.
Pas
ce qu'il en aurait pensé.
Exactement.
Mais oui, il y a des gens dans le public qui ont été manifestement déconcertés.
Absolument. Alors, ça a beaucoup mieux marché à la deuxième partie, puisque l'intervention de Dominique Bru ne s'est faite qu'au début,
elle a précédé,
avant l'entrée des musiciens d'ailleurs.
Et oui.
Et donc, tout ce qu'elle a dit là était extrêmement intéressant et nous renseignait sur Ernest Chausson, que l'on connaît assez peu. On sait surtout qu'il est mort à 44 ans d'un stupide accident de bicyclette.
C'est vrai, on peut se demander ce qu'aurait pu être la suite de son œuvre. C'est une question qu'on se pose pour beaucoup de compositeurs.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup.
Mais à l'instar de Paul Dukas, c'était un compositeur très exigeant avec lui-même. Et donc, il a assez peu composé finalement.
Hein, donc, oui, il ne laisse pas un catalogue d'œuvres très
énorme. Si on compare avec Mozart, qui est mort 10 ans avant,
qui
a vécu 10 ans de moins, hein, bon, on est étonné. Mais son concert pour piano, violon et quatuor à cordes est vraiment une merveille.
Ah, moi, je le trouve très beau.
C'est absolument magnifique.
Et là, très original aussi.
Et là, on a eu l'arrivée donc, du super soliste de la soirée. Donc,
oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est un concert pour piano, violon. Et quatuor à cordes.
Voilà. Le quatuor à cordes, c'est un peu l'accompagnant des deux solistes. Oui. Les deux solistes étant le violon et le piano. Et effectivement, alors c'est une forme unique. Je ne connais pas d'autres œuvres.
Non. Enfin, oui,
pour
ça existait. Cette
composition instrumentale, à mon avis. Bon, ouais. Et donc, c'était très, très beau. D'abord, on est surpris et charmé par l'intensité de la sonorité du premier violon, qui a vraiment une sonorité à la fois ronde, douce et intense. Donc c'était très très beau. Le piano de Philippe Monferrand, comme d'habitude, a fait des merveilles. Donc c'était très beau.
Et le quatuor, l'équilibre entre le piano et les autres musiciens, qui est aussi parfait.
Ah oui, oui, c'était
souvent
vraiment
une difficulté dans cet exercice.
Ah, tout à fait. Avec les quatre mouvements formidables, ça allait du lyrisme du premier à la ferveur, peut-être l'apothéose, de cette Sicilienne, qui était vraiment magnifique, qui n'était pas qu'une danse avec un rythme particulier, mais qui allait au-delà.
C'est un mouvement qui se suffit presque en lui-même.
Ah oui, avec le drame du troisième mouvement, grave, et puis cette espèce d'enthousiasme qui emporte le final, avec une sorte d'ivresse qui prend tous les musiciens. C'était vraiment très, très beau. Comme on dit quelquefois, il y avait du jus dedans, il y avait de l'adrénaline, c'était très intense. Donc un très, très beau moment.
Il y a un grand bravo à ces musiciens et à cette récitante parce que, bon, quelles que soient les réserves qu'on a pu faire sur le déroulement du programme, pris à part, les interprétations étaient vraiment de très très haut niveau. Eh bien, vous venez d'en parler, c'est une splendeur. On va écouter de nouveau Sicilienne, le deuxième mouvement du concert pour piano, violon et quatuor à cordes, opus 21, dernière chausson, dans une version du Juilliard Quartet avec Itzhak Perlman au violon. Sicilienne, le très beau deuxième mouvement du concert pour piano, violon et quatuor à cordes, opus 21 d'Ernest Chausson, ce compositeur qui aurait eu sans doute encore beaucoup de choses à dire et à créer s'il n'était mort accidentellement à l'âge de 44 ans en tombant de vélo. Notez que le prochain concert des Clés de Saint-Pierre aura lieu le lundi 16 décembre à 20h, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. Il y aura deux œuvres au programme, Masque de Takemitsu et le fameux Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg. Et ce sera la danse qui sera convoquée aux côtés de la musique ce soir-là. Fin de cette longue et très variée première partie d'émission. Petite pause et l'on se retrouve pour l'agenda de la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et donc dans cet agenda de la semaine, on trouve deux concerts de l'Orchestre National du Capitole, mercredi 23 et samedi 26 octobre, à la Halle aux Grains bien sûr. Le premier est un peu inattendu puisque notre cher orchestre toulousain va y accompagner la chanteuse Jane Birkin dans un programme intitulé Gainsbourg Symphonique. Qu'est-ce que ce mélange des gens, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, vous inspire, Serge?
De toute façon, Serge Gainsbourg était un excellent musicien, hein, outre les foucades, les...
Bon, les oui, il y avait le personnage et puis il y avait le compositeur l'auteur interprète de chansons.
C'est vraiment un personnage important, hein, donc on comprend que Jane Birkin ait voulu lui rendre hommage à travers le passage à l'orchestre symphonique de ses œuvres, hein, de certaines de ses œuvres, donc on va bénéficier d'une voix tout à fait reconnaissable, d'un accent so british que l'on aime beaucoup et d'une personnalité particulière. Donc ce sera une soirée d'hommage à Serge Gainsbourg à travers sa musique entre guillemets symphonique.
Bah, Gainsbourg était musicien, même pianiste de formation classique. D'ailleurs, il se disait, il a répété souvent en interview qu'il avait la plus grande admiration pour les grands compositeurs classiques, pour les grands du jazz aussi. Il aimait beaucoup, beaucoup le jazz. Il s'est beaucoup inspiré dans les musiques de ses chansons, de mouvements d'œuvres classiques très connues. Dvorak, Chopin, bon ça évidemment, Rachmaninov, Brahms, le fameux mouvement de la troisième symphonie de Brahms.
Voilà.
On retrouve ça dans beaucoup de ses chansons et parfois c'est même des inspirations qui passent très vite, mais bon voilà, il y en a même qui disent que c'était plus un copieur qu'autre chose. Moi j'avoue, très personnellement, le génie de Serge Gainsbourg m'échappe un peu quand on parle de génie à son sujet. D'ailleurs lui-même ne se revendiquait pas tel.
Non.
J'ai du talent, mais du génie, non. Alors il faut dire que ce programme tourne déjà depuis 2 ans en France. Hein. Elle s'est produite avec d'autres orchestres symphoniques, Jane Birkin. Il a donné lieu à un CD, donc le CD Gainsbourg Symphonique. La voix de Jane Birkin, cette façon de susurrer, qu'est-ce que ça peut donner avec un orchestre symphonique?
Eh bien, je me pose la question, tout simplement, puisque cet album CD dont vous parlez, c'était le 3e album de studio de Jane Birkin.
Oui.
Donc, mais je dois avouer à ma grande honte que je ne l'ai pas entendu, donc je ne sais pas du tout ce que donne l'intégration de la voix donc qui susurre, comme vous disiez, de Jane Birkin au sein d'un orchestre symphonique. Mais avec un micro, on peut faire absolument ce que l'on veut.
Alors, ce qui est certain, c'est que ça devrait drainer un public très différent de celui qu'on connaît habituellement à la Halle aux Grains.
Et ce n'est pas plus mal. C'est une bonne chose. Parce que peut-être que parmi ceux qui viendront pour la première fois écouter l'Orchestre Capitole, il y en a parmi eux qui peut-être se diront « Tiens, après tout, cet orchestre est bien, est bon, et donc je vais écouter d'autres concerts. Je vais venir assister à d'autres concerts. »
Et puis, ça permet aussi de découvrir le lieu. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'entrer à la Halle aux Grains. C'est vrai, quand on passe devant, ça a l'air... Bon, c'est fermé, hein. C'est pas un lieu avec un grand hall, c'est pas un lieu transparent, si on peut dire, on voit pas trop à quoi ça ressemble à l'intérieur, donc peut-être que ça permettra à certains de briser un peu la glace, si je puis dire, et de se rendre compte que aller à la Halle aux Grains, c'est comme aller dans n'importe quelle salle de spectacle.
Hein. Oui, c'est une bonne idée.
Alors, dans le programme, il y a des chansons très connues, hein, comme Lagadou, qui est d'ailleurs Gainsbourg avait composé pour une autre chanteuse britannique qui adore la France, Petula Clark. Il y a la fameuse chanson de Prévert, et puis il y a d'autres chansons moins connues, ou des débuts, ou de la fin de la carrière de Serge Gainsbourg. Je propose qu'on écoute un extrait de ce programme Gainsbourg Symphonique, chanté par Jane Birkin. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Là, il s'agit d'une chanson plutôt connue de Serge Gainsbourg, Amour des feintes.
Des faux semblants, un fonte des fautes, c'est pas vain, non. Car deux en qu'un de ces défiants, le palais d'un prince catalan. amour défunt, tout seul, un camp. Des larmes scintillent au vent, où l'on emprunte des sentiments. Le labyrinthe obsédant. Et comme si de rien n'était, on joue à l'émotion. Entre notre et un petit mensonge par omission. Amour des fautes, des faux semblants. Un fente des fautes, ce pavanant. Étrange crainte en écoutant les douces plaintes du vent. Amour des feintes.
Amour des feintes, chanson de Serge Gainsbourg, chantée par Jane Birkin, accompagnée par un orchestre symphonique et extraite du CD Gainsbourg Symphonique. Ce sera sans doute une de celles que devrait interpréter la chanteuse anglaise avec l'Orchestre National du Capitole lors du concert qu'elle donne à la Halle aux Grains ce mercredi 23 octobre à 20h. Nous poursuivons avec l'Orchestre National du Capitole, décidément très actif la semaine prochaine. De nouveau en concert samedi 26 octobre, toujours à la Halle aux Grains et toujours à 20h. Et là, il s'agit d'un programme entièrement chinois, c'est-à-dire que les compositeurs qui vont être joués sont chinois, le chef invité est chinois et le pianiste soliste est chinois lui aussi. Le concert a tout naturellement été titré China Night. Vous qui êtes polyglotte, Serge, j'imagine que vous êtes aussi sinophile. Alors, que nous réserve cette nuit de Chine à la Halle aux Grains ?
Alors, il faut d'abord préciser que cette nuit est organisée pour célébrer le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, hein, qui est fêté dans le monde entier.
1949, effectivement.
Exactement. Donc, d'après ce que l'on sait, quatre compositeurs majeurs chinois seront au programme. Alors des compositeurs qui sont supposés refléter un peu la diversité des compositions en Chine. Effectivement, c'est un immense pays et on peut imaginer qu'il y a des traditions folkloriques qui influencent les compositeurs de manière différente suivant les régions. Alors il y a quatre compositeurs au programme. Je me lance pour les noms. Wen Jingguo, Clanil Zhang, Qigang Chen et Long Zhu. Voilà les quatre compositeurs.
C'est un sans faute, bravo.
Oh non, c'est un peu difficile. Mais donc, voilà les quatre compositeurs, alors avec des œuvres différentes, avec des titres. Hein. Donc, par exemple, l'œuvre de Guo s'appelle « Ouverture le Lotus ». L'œuvre de Zhang, c'est une suite symphonique du Yunnan Capriccio. Et puis, l'œuvre de Chen, alors, elle s'appelle « Air Wang » pour piano et orchestre. Donc là, nous entendrons le pianiste Li Jian. Et puis enfin, l'œuvre de Zhu, c'est une suite symphonique qui s'appelle Beijing Rhyme. Donc voilà, quatre œuvres, quatre compositeurs. Et donc, avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé, comme vous l'avez dit, par Tan Liwa, et le pianiste étant Li Jian. Donc voilà, c'est vraiment une nuit de Chine.
Oui, alors Tan Liwa, c'est pas n'importe qui, puisque c'est tout de même le directeur de l'Orchestre Symphonique de Pékin.
Exactement, alors, exactement.
Voilà, oui. Et puis bon, il faut dire que l'Orchestre National du Capitole entretient des liens forts avec la Chine depuis déjà pas mal d'années. Il y a eu des tournées, ils sont produits à Pékin, ils sont produits à Shanghai, et puis peut-être aussi dans d'autres villes. Voilà, et depuis 2 ou 3 ans, il y a au moins un concert chaque année où un compositeur chinois est mis en vedette. Alors ça a été souvent pour l'instant Qigang Chen, et il y a une raison, c'est qu'il est franco-chinois,
c'est ça,
ou sinon français, on dit ça comme on veut. Il vit en France depuis 1984, il est français, il a la nationalité française depuis 1992 et ça a été le dernier élève d'Olivier Messiaen dont vous parliez tout à l'heure.
Mais oui, exactement. Donc il y a vraiment des liens très forts entre la Chine et la France dans ce domaine.
Qigang Chen, c'est le plus français des compositeurs chinois. Et bon, c'est pas par hasard, on va écouter là maintenant une de ses œuvres, mais son œuvre est très imprégnée évidemment de musique française, même si bon, il y a des échos de la musique de son pays d'origine. C'est donc une de ses pièces que je vous propose d'écouter tout de suite, celle qui va être jouée samedi 26 à la Halle aux Grains par l'Orchestre National du Capitole et le pianiste Li Jian. Voici un extrait d'Air Wang pour piano et orchestre. Thank you. Er Wang pour piano et orchestre, extrait de la pièce de Qigong Chen qui sera jouée samedi 26 octobre à la Lograin par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tan Liwa et avec le pianiste Li Jian lors de China Night, un concert qui commencera à 20h. Avant de terminer cette émission, je voulais annoncer le récital que donne Thibaut Garcia ce samedi 19 octobre à 20h à la salle bleue de l'ancien espace Croix-Baragnon. C'est une manière de dire adieu à ce lieu où auront été donnés des centaines de concerts pendant toute la période où l'espace Croix-Baragnon était un des centres culturels de la ville de Toulouse. Beaucoup de mélomanes ont encore en mémoire les concerts à la salle bleue qu'organisait Alain Lacroix et où beaucoup de jeunes musiciens ont débuté, dont Thibaut Garcia lui-même d'ailleurs. Serge, étiez-vous un habitué de ces concerts et de cette salle, est-ce que vous y avez de beaux souvenirs?
Ah oui, oui, j'ai d'excellents souvenirs avec de grands pianistes qui sont passés par là, même si la salle était un peu particulière, hein, une salle assez petite d'ailleurs.
Basse de plafond
avec une colonne au beau milieu.
Voilà, un pilier au milieu.
Oui, bon, c'était très particulier, mais elle avait son charme. Disons.
Elle avait une intimité, quoi. Il y avait une intimité avec le musicien ou les musiciens.
Il y avait une proximité avec les musiciens, entre les musiciens et le public, qui était tout à fait admirable. Mais bon, on comprend que ça ne se soit pas prolongé à l'infini, quoi.
Voilà, alors donc je ne sais pas combien de temps, pendant combien d'années il y a eu des concerts. Vous avez des souvenirs de concerts avec quels musiciens? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres?
Oui.
Peut-être y avez-vous débuté d'ailleurs de jeunes instrumentistes qui sont devenus ensuite de grands musiciens sur la scène nationale, voire internationale.
Ben, j'ai le souvenir d'un très beau concert de Guillaume Coppola, le pianiste,
oui,
qui avait donné un très très beau récital. Donc, et d'autres, hein, mais celui-ci me revient maintenant. Là, c'est Guillaume Coppola était vraiment un grand pianiste, un poète du clavier. Hein, c'était très très beau. Et d'autres, hein, donc, c'est un peu la nostalgie qui va jouer ce soir-là.
Oui, probablement, y compris d'ailleurs peut-être pour Thibaut Garcia, parce que lui, je crois qu'il a vraiment débuté, que c'était son premier concert en public. Ah, ça a été,
possible,
je crois, à la Salle Bleue, bon, à l'initiative donc d'Alain Lacroix, qu'il a toujours d'ailleurs soutenu depuis. Mais il y en a d'autres qui ont débuté ou quasi débuté. Hein. À la Salle Bleue, il y a eu Adam Laloum,
ah oui,
il y a eu Fabrice Milichère, tromboniste. Nathanaël Gouin. Et je crois que Guillaume et Marie Chelem, au moins Guillaume Chelem en tout cas, ont aussi débuté ou presque débuté à la Salle Bleue. Vous savez, il y avait des cartes blanches aux élèves du conservatoire à une époque.
Oui, oui.
Et eux, ils ont eu la chance de faire partie de ces élèves qui ont eu droit à ce pied à l'étrier, à cette rampe de lancement. Alors Bertrand Chamaillou y a joué aussi, bon il était déjà connu à l'époque, Julien Martineau y a joué, Sandrine Tilly s'y est produite, je me rappelle d'un concert avec Anne de Bozek. Donc piano et flûte, non, il y a eu très belles choses. Et puis, bien sûr, je pense que les habitués de ces concerts s'en rappellent. Ils continuent ailleurs, hein, mais Jean-François Zigel et Philippe Cassard y ont donné beaucoup de leurs leçons de musique.
Ah oui, oui, qu'ils ont dû multiplier même.
Il y avait eu 3 ou 4 rendez-vous par an. Hein.
Oui, absolument.
Voilà, donc il y a tous ces souvenirs, toutes ces ondes là qui demeurent à la Salle Bleue qui va maintenant connaître un autre destin. Je ne sais pas trop, le bâtiment va être utilisé pour d'autres choses. Mais donc voilà, ce concert qui va être gratuit, hein, je le précise, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. Si vous avez l'information que vous êtes disponible ce samedi à 20h, n'hésitez pas à y aller. Alors je ne sais pas du tout quel programme va jouer Thibaut Garcia à la Salle Bleue. Je crois qu'on lui a donné une sorte de carte blanche, donc ça ne va pas nous empêcher de l'écouter dans cette émission. On l'écoute tout de suite jouer El Noi de la Mare de Miguel Llobet. Thank you. El Noy de la Mare, très jolie pièce du guitariste et compositeur espagnol Miguel Llobet, joué par Thibaut Garcia, qui donne donc un récital à la salle bleue de l'ancien espace Croix-Baragnon à Toulouse ce samedi 19 octobre à 20h. Notez que l'entrée est gratuite et qu'il n'y a pas de réservation. Il est donc conseillé d'arriver tôt pour être sûr d'avoir des places. Nous sommes parvenus au terme de ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie une fois de plus mon ami Serge Chosy d'avoir participé avec le brio, l'enthousiasme et la passion qu'on lui connaît. Je rappelle les deux concerts que donne l'Orchestre National du Capitole cette semaine à la Halograin. Tout d'abord, Gainsbourg Symphonique avec Jane Birkin ce mercredi 23 octobre à 20h. Puis China Night, samedi 26 octobre, également à 20h, avec un programme d'œuvres de compositeurs chinois, un chef et un pianiste chinois. Pour vous renseigner et réserver vos places à ces deux soirées, il faut vous connecter au site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Je signale aussi que le 10e concours international d'interprétation de la mélodie française de Toulouse a lieu du mardi 23 au samedi 26 octobre. Sous la présidence d'honneur de Maddy Mesplé, les épreuves vont se dérouler au conservatoire à rayonnement régional et à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour connaître les lieux, les horaires et les modalités du concours, je vous conseille de consulter le site de l'association Toulouse Mélodie Française à l'adresse www.concours-chant-mélodie-française.com. Notez aussi les concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse à l'escale de Tournefeuille, jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 20h30, avec un programme dédié à des concertos pour violon de Vivaldi et des pièces de Corelli et Tartini, encore Tartini. Renseignements et réservations sur le site www.orchestre-de-chambre-de-toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin le récital que donne le guitariste Thibaut Garcia ce samedi 19 octobre à 20h à la salle bleue de l'ancien espace Croix-Baragnon. L'entrée est gratuite, il n'y a pas de réservation, donc prenez le soin d'arriver tôt si vous voulez avoir des places. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de rester fidèle à notre écoute, je vous souhaite une excellente semaine musicale.